Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Au sommaire, c'est fait. Les élèves ont repris de classe lundi 2 septembre 2024 en RDC. Cérémonie présidée officiellement par la Première ministre Judith Suminwa au lycée Lambatoumoua dans le Congo central. Nous irons aussi palper la température de certaines écoles de Kinshasa où le mot d'ordre de grève a été plus ou moins respecté. L'actualité est également focalisée vers la prison centrale de Makala où il y a eu tentative d'évasion des détenus. Une prison qui s'est transformée en champ de bataille ce matin. Le ministre de la Justice évoque des actes de sabotage prémédités. Nous allons enfin découvrir le tout premier laboratoire de semences au Maniema. Le coordonnateur national du programme d'appui au développement rural inclusif est là pour nous en parler. Damien Moutebakalala est l'invité de Radio Okapi. Encore une fois, bonjour. Nous commençons ce journal d'abord avec ce sinistre dans le Haut-Katanga. 11 personnes sont mortes, toutes calcinées, dans un incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie s'est produit à plus de 3 km du village Kabungu, dans la chefferie de Basanga, territoire de Kambove. Les victimes étaient toutes à bord d'un véhicule de transport en commun qui partait de Lubumbashi vers le territoire de Mitwaba. Ce véhicule avait à son bord des bidons d'essence. D'après l'administrateur du territoire qui confirme l'information, il y a eu 3 rescapés, dont 2 femmes ainsi que le chauffeur. Les 2 femmes sont admises dans un hôpital de Likasi, tandis que le chauffeur a pris la fuite. Francis Kalongo, qui déplore cet incident malheureux, rappelle qu'il est interdit de transporter des passagers et des produits inflammables dans un même véhicule. Il indique en outre qu'au regard de l'ampleur des dégâts, il était difficile d'identifier les victimes dont les restes des corps ont été enterrés sur place. Rentrée scolaire effective ce 2 septembre, comme annoncé par la ministre de l'Éducation nationale. Les services de la primature annoncent que c'est la première ministre Judith Suminwa qui procède au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée Lamba Ntoumoua à Kimpese, au Congo central. À Kinshasa, dont la majorité d'écoles visitées ce matin par nos reporters, on signale la présence massive d'élèves ainsi que des autorités dans certaines écoles. Mais dans d'autres, par contre, les élèves ont brillé par leur absence. Ils ont respecté l'appel à la grève lancé le week-end par certains syndicats des enseignants. Blaise Shindani et toute l'équipe de décrochage étaient sur terrain, suivaient leur reportage.
Au collège Boboto, au lycée Bosangani, en passant par l'Institut de la Gombe, le constat est le même. Les élèves ainsi que les autorités sont au rendez-vous pour ce premier jour de leur rentrée scolaire. Des parents qui ont accompagné leurs enfants se réjouissent de cette rentrée effective. Au collège Boboto, par exemple, le directeur des études sortant, le père Liévin Kambundi, s'adressant aux élèves et aux enseignants, leur recommande de la discipline qui a toujours été de mise dans cet établissement.
Tous les acteurs de l'éducation au collège Boboto sont donc appelés à être disciplinés et travailleurs pour que l'excellence humaine soit effective en parole, en pensée et en action.
Situation similaire du côté du collège Saint-Ignace à Cité Verte. Ici, tout se passe comme prévu. Tous les acteurs de l'éducation ont répondu présents au rendez-vous. Père Eden Mouké, préfet du collège.
Nous avons eu notre réunion préparatoire le vendredi passé. J'ai instruit mes agents d'être là parce que nous n'avons pas reçu officiellement un communiqué qui nous interdit de reprendre les activités aujourd'hui.
Au complexe scolaire Kindele dans les monts Amba, les élèves ne sont pas nombreux comme d'habitude. Selon les surnuméraires de cette institution publique, les parents ont prêté oreille aux nombreux messages distillés dans les réseaux sociaux qui annonçaient la grève des enseignants dans les institutions publiques.
Voilà, la ronde de cette rentrée scolaire nous emmène cette fois dans la province du Congo central, où elle a été également une réalité. Dans son adresse, le maire de Matadi dit reconnaître les mauvaises conditions dans lesquelles travaillent et vivent les enseignants. Mais Dominique Nkodiambété appelle le corps enseignant à plus d'engagement et d'amour dans l'exercice de sa profession. Nous reviendrons sur cet élément. Direction Bounia, où la rentrée scolaire était timide, à Mongualou et à Mambassa Centre. Voici le reportage. Nous allons directement à Beni, à Lubero Centre, au Nord Kivu, où la rentrée scolaire prévue ce lundi a été perturbée. Les élèves ont été contraints de rebrousser chemin car les salles de classe sont encore occupées par des déplacés qui ont fui l'occupation récente de plusieurs localités du territoire de Lubero par les rebelles du M23. Pour plus de détails, Martial Papi Mukeba depuis Beni.
Plusieurs établissements sont concernés par cette situation, notamment les écoles primaires de Mutungaji, Kilalo, Mieri, Kaisi, ainsi que l'Institut Ivatiro. Les élèves se sont retrouvés face à une situation inédite, partager leur salle de classe avec des déplacés. Certains directeurs d'école expriment leurs préoccupations. C'est le cas de Balira Kakule de l'école primaire de Mutungaji.
Certains déplacés ont dit non, les enfants ont droit à venir à l'école. Ils vont partager les salles avec eux. Le matin, ils vont chaque fois plier les bagages. Et après les cours, ils retournent dans les salles de classe.
Le colonel Anle Kiwewa, l'administrateur du territoire de Lubero, prévoit la délocalisation imminente de ces déplacés.
Nous sommes en train de faire un effort à ce que le gouvernement et nos partenaires puissent nous aider à chercher des abris pour eux, parce que nous avons déjà des sites pour le délocaliser.
Dans les sites du territoire des Lubero, la rentrée scolaire s'est déroulée timidement dans des agglomérations sous occupation du M23. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Au Kasaï Oriental, la rentrée scolaire a eu lieu ce lundi 2 septembre 2024. Plusieurs élèves se sont présentés dans leurs écoles pendant que certains enseignants, bien que présents, étaient très passifs. Le constat a été fait par Esther Ndalafina. Nous y reviendrons. Au Kasaï Central, alors que l'école a repris ce lundi, le gouvernement provincial appelle la population au respect des mesures barrières contre le monkeypox. Déjà, le ministère provincial de la Santé avise la communauté sur le fait que tous les territoires de la province ne sont pas épargnés par la maladie. François Kadima nous en parle.
Dans un communiqué de presse du ministère provincial de la Santé signé par le gouverneur de province, il cite notamment le territoire de Dibaya dans la zone de santé de Bunkonde où un cas a été confirmé. Une situation qui appelle à l'application des mesures préventives dans tous les milieux et au renforcement de la communication ainsi que de la sensibilisation sur le monkeypox, note ces documents. Soulignant que la fièvre, l'apparition de boutons sur le corps et les douleurs musculaires font partie des symptômes, le ministère provincial de la Santé demande l'application des mesures barrières. C'est notamment se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon ou utiliser le gel alcoolique. Éviter tout contact avec les liquides contaminés ou tout espace souillé par les malades. Le ministère provincial de la Santé conseille également la population à bien cuire la viande et éviter tout contact physique et sexuel avec une personne qui présente les signes des monkeypox. Le ministère provincial de la Santé invite la population à faire appel au personnel de la santé en cas d'enterrement de personnes mortes suspectant de la maladie. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Tête à tête ce lundi entre le président Félix Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte à Beijing en Chine. Au menu des échanges, la coopération bilatérale, le partenariat commercial et les relations diplomatiques. Le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue pour le soutien de son pays au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment pour garantir le respect de la souveraineté de la RDC et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Signalons que le président de la République est arrivé hier en Chine pour prendre part à la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui va se tenir du 4 au 6 septembre 2024. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, d'après les autorités pénitentiaires, évasion de plusieurs prisonniers réussie selon les avocats qui parlent de nombreux morts et blessés graves. La situation semble confuse. Cet établissement pénitentiaire a été le théâtre de plusieurs coups de sommation tirés de l'intérieur par la police pour dissuader des prisonniers qui tentaient de s'évader dans la nuit du 1er au 2 septembre, à en croire des sources pénitentiaires. Il s'agit des actes de sabotage prémédités cette nuit, publie le ministre de la Justice. En attendant, Constant Mutamba annonce quelques mesures provisoires prises, à savoir l'interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus des cachots à Makala, sauf autorisation du ministre jusqu'à nouvel ordre. L'intensification du processus de désengagement, de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays, l'accélération du projet de délocalisation de la prison centrale par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville. D'après les autorités pénitentiaires, les enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer les circonstances de ces événements. Affaire donc à suivre. Voilà, situation confuse à la prison centrale de Makala. La Fondation Bill Clinton pour la paix dresse un bilan de plusieurs morts, des blessés et des évasions. Son président Emmanuel Adou Kolé souligne la nécessité de séparer les militaires des civils dans cette maison carcérale, rappelant l'épisode tragique du 7 mai 2017 où une évasion massive avait entraîné la mort de nombreux détenus dans la même prison. On écoute Emmanuel Kolé, qui a été joint depuis le lieu du drame par Grace Hamzati.
C'est depuis 10h du matin que nous avons écouté les tirs de balles. On a tiré les balles sur beaucoup de gens qui sont décédés. Les prisonniers même, ils sont fait un trou, sont cassés un trou pour être évadés. Bien que l'accès d'entrée est interdit, mais selon des gens, cette matin, ils sont vus beaucoup le corps dans les jeeps, les gros voitures militaires qui ont amené certains des gens à Sana, certains des gens à Mamayebo. Donc, il y a trop de décès. Cet incident, ça devait être éclaté si l'autorité avait prêté l'attention à nous plusieurs rapports sur les prisons, surtout les prisons centrales de Makala. Parce que nous avons fait voir l'autorité qu'il est inadmissible de détenir plus de 4000 militaires avec les civils d'un cité comme Seremao. Mais l'autorité ne sont pas prêts aucune précaution. Et voilà, les drames arrivés. Comment comprenez-vous que d'un prison civil qui est conçu pour 1500 personnes, aujourd'hui, selon les estimations, bien que son excellence est en train d'accorder les libertés conditionnelles à certains de gens, mais le nombre n'a pas bougé, toujours plus de 14 000.
La Fondation Bill Clinton pour la paix rapporte également que la directrice adjointe de la prison de Makala est arrêtée, son titulaire n'étant pas de service pour des raisons de santé. En Ituri, 10 morts, dont 5 militaires des FARDC et une blessée grave, bilan provisoire d'une fusillade survenue la nuit de dimanche à lundi à Nizi Centre, chef-lieu de la chefferie de Mambisa, dans le territoire de Djougou, à 35 km au nord de Bounia. Selon l'administrateur du territoire, des hommes armés identifiés aux miliciens de Zaïre ont tiré à bout portant sur les victimes, dont le chef de la chefferie qui se trouverait dans une terrasse avant d'ouvrir le feu sur 5 militaires des FARDC qui voulaient intervenir. Récit des faits avec Martial Kizabiamungu.
Il est 19h, heure de l'Est, lorsque des jeunes gens armés de la milice Zaïre, visiblement en état d'ivresse, surgissent devant une terrasse située non loin du bureau de la chefferie. Sans sommation, l'un d'eux ouvre les feux sur des personnes assises en face de lui et qui prenaient de la bière sur une même table. 5 personnes sont touchées par balle, dont le chef de la chefferie de Mambisa, Djouga Krilo. Toutes vont mourir à la suite de leurs blessures. Dans leur fuite, ces miliciens vont tendre une embuscade au FARDC qui venait en intervention après avoir entendu des coups de feu. Les 5 soldats seront à leur tour abattus par ces hors-la-loi et leurs armées, dont un PKM et 4 AK-47 récupérés par les miliciens. Les corps des victimes arrivent progressivement ce lundi à la morgue de l'hôpital général de référence de Bounia, indique l'administrateur policier du territoire de Djougou. Dans ces carnages, on compte plusieurs blessés graves, dont une femme qui a été acheminée à Bounia pour des soins. Entre-temps, toutes les activités sont paralysées ce lundi à Nizi Centre. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, situation tendue et confuse ce lundi à Goma, dans le Nord Kivu. Les activités socio-économiques ont été perturbées à la suite des manifestations et ont conduit à des barricades sur plusieurs axes routiers, alors que l'autorité de la ville a interdit la semaine dernière cet appel à une journée ville morte. Plusieurs manifestants ont été vus sur plusieurs axes de la ville. Le point avec Bernard Denyangi.
Des tirs sporadiques ont encore été entendus et une présence policière renforcée est visible cette matinée au point chaud de la ville. C'est en particulier dans les quartiers Majengo, Mabanga et Kasika où des barricades faites de pierres ont été placées sur la chaussée des artères principales par des manifestants spontanés. Ces manifestations commençaient déjà dans la soirée hier dans le nord de la ville. Se sont étendues dans la matinée de ce lundi dans la partie ouest, notamment vers les quartiers Ndosho, Katoi, Keshero, Mugunga. Conséquence, de nombreuses boutiques sont restées fermées dans ces zones alors que tout tournait au ralenti dans le centre-ville. Certaines écoles ont fonctionné timidement, plusieurs parents ayant préféré garder leurs enfants à la maison en cette journée de la rentrée. Rappelons qu'un groupe d'activistes des mouvements citoyens a fait circuler, notamment par les réseaux sociaux, des messages appelant à une journée ville morte ce lundi 2 septembre. Ceci pour contester la hausse de la criminalité dans la ville et la rotation du contingent Kenya au sein de la MONUSCO. Cela malgré la mise au point du 29 août 2024 du ministère congolais des Affaires étrangères, précisant que les troupes kenyanes sont déployées en réponse à la demande formulée en 2019 par le gouvernement de la RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, le gouvernement congolais consacre ce lundi 2 septembre à l'enterrement de 200 corps de personnes déplacées de guerre au cimetière du Génocoste. C'est dans le groupement de Kibati, en territoire de Nyiragongo. Une grande cérémonie de dernier hommage à la mémoire de ces personnes mortes dans diverses circonstances se tient au stade de l'unité de Goma, où ces corps sont exposés depuis ce lundi matin. Chris Mukande est sur place.
Sur le seul axe des sites de Kanyaruchinya, plus de 1300 personnes déplacées ont déjà été enterrées ces derniers mois. La situation est similaire pour tous les autres sites. Pouvons-nous retenir du témoignage de ce président du site des déplacés? D'autres témoignages sont allés jusqu'à exprimer des émotions fortes, exigeant la restauration de la paix dans la région. Amani. 268 corps des personnes déplacées ayant trouvé la mort dernièrement, les unes à la suite de la famine, les autres de maladie et autres encore de banditisme dans les sites déplacés, avaient été gardés jusque-là dans différentes morgues à travers la ville de Goma. Notant qu'une délégation de membres du gouvernement et du Parlement est présente à Goma autour du gouverneur, après cette cérémonie des derniers hommages tenue ce lundi dans la matinée au stade de l'Unité, ce sont 200 corps qui seront enterrés en début d'après-midi au cimetière du Génocoste à Kibati. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud fait face à un défi, celui de prévenir la transmission du VIH-Sida d'une femme enceinte à son futur enfant. Au cours du premier semestre de cette année, 230 bébés sont nés avec le virus dans la région de Pretoria contre 210 au semestre précédent. Les autorités s'inquiètent, estimant que ces contaminations pourraient être évitées.
L'invité.
Notre invité est Damien Mouteba Kalala, coordonnateur national du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Il nous parle de la construction du tout premier laboratoire des semences au Maniema. Damien Mouteba Kalala répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Mouteba Kalala, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Nous vous voyons Padrir se lancer dans la construction du laboratoire des semences au Maniema. Est-ce le premier ou il existe encore un autre laboratoire du genre au Maniema?
Merci beaucoup madame. Il n'y a pas un laboratoire des semences dans la province de Maniema et surtout pas avec le service national des semences. Donc c'est une grande première que le Padrir veut réalisé dans cette grande province du Maniema.
Qu'est-ce que ce laboratoire va changer ou bien contribuer au système agricole du Maniema?
Il faut dire que l'agriculture, on ne peut pas en parler s'il n'y a pas de semences. Tout ce que nous plantons vient de la semence. Ces semences, ça peut être une graine ou ça peut être des boutures selon certains types de cultures. Maintenant, ici, dans les Maniema, on a déjà des difficultés d'avoir une bonne semence. Et ce qu'on appelle semence, l'est lorsqu'elle a été approuvée, elle a été certifiée. Et cette certification, pour y arriver, il faut mener des analyses au laboratoire. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne de choses qu'il faut réaliser en amont pour arriver à voir une semence. Donc, en mettant en place un laboratoire au CNASM, c'est pour améliorer la qualité des semences ou du moins s'assurer que la semence qu'on met à la disposition de notre population est une bonne semence et on peut s'attendre à un très bon rendement. pourquoi nous les faisons? C'est parce que Padrir a, dans son volet agricole, développé ce qu'on appelle une politique sémencière. Cette politique sémencière va de la dotation des semences aux agrimultiplicateurs et à leur tour, ils vont produire donc la semence de base que nous obtenons auprès de l'INERA. Ils vont la produire pour obtenir la semence R1 qu'ils vont donner maintenant au ménage. Donc, cela rentre dans la ligne d'action de Padrir qui dote le ménage à travers les agrimultiplicateurs des semences et les Padrir voudraient bien s'assurer que la semence qui est mise à la disposition de la population, c'est une bonne semence, comme je l'avais dit. Voilà pourquoi ils voudraient bien non seulement rester dans la certification comme il l'est fait avec le Sénasem, mais s'assurer que cette certification, elle est valable parce qu'elle est basée sur des résultats des laboratoires. Voilà pourquoi nous avons appuyé la construction du laboratoire dans les Maniema.
Kindu n'est pas Maniema. Est-ce que le projet envisage construire aussi des laboratoires de semences dans les territoires?
Pour l'instant, le programme n'envisage pas construire des laboratoires dans les territoires. Mais il faut déjà dire que ces laboratoires qui sera mis en place est capable de satisfaire à la demande au niveau provincial, même hors de la province. Donc, c'est un grand laboratoire qui sera doté des équipements valables et les semences qui seront analysées dans ces laboratoires serviront à toute la province et, comme j'avais dit, même hors de la province.
Vous avez posé la première pierre pour la construction de ces laboratoires. Cette pierre ne sera pas considérée comme pierre tombale, étant donné que beaucoup posent des premières pierres, mais sans réaliser les projets.
Loin de nous l'idée de poser une pierre tombale, la pierre que nous avons posée aujourd'hui, madame, dans 2 ou 3 mois au maximum, nous reviendrons pour réceptionner les bâtiments. Donc, croyez-nous, les moyens ont été mobilisés, la passation des marchés a été réalisée en bonne et due forme. Donc, d'ici fin du mois de novembre, nous serons en mesure de réceptionner les bâtiments et de les mettre à disposition du Sénasem.
Alors, les coûts globaux, c'est à combien et comment est-ce que ce laboratoire aura l'influence sur l'économie de la province?
Les coûts globaux des travaux, c'est autour de 80 000 $. Alors, ce laboratoire, en plus de pouvoir permettre de mener des analyses physiques et puis physiologiques, mais il y a aussi un aspect important qu'il faut noter dans la réalisation du laboratoire, c'est l'aspect économique. Vous savez, pour la certification des semences, les agrimultiplicateurs payent. Ils payent au Sénasem certains droits et tous ces éléments-là ont un coût. Et maintenant, si on devrait, par exemple, le faire à Kinshasa, vous comprenez combien le coût devait être beaucoup plus élevé. Bon, maintenant, en ayant ces centres sur place dans les Maniema, donc ça va jouer sur le coût de la production de la semence.
Merci Damien Moutebakalala, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à Pele Kipela Mondo, à Élisée Chikota et à Billy Landry Betou.